Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Je voudrais simplement vous transmettre de la part de mon épouse, vous connaissez ? Oui, Myriam, voilà, et moi-même, eh bien, vous souhaitez une bonne année 2026. On vit des choses différentes en fonction de nos âges. Il y a toujours de la nouveauté avec le Seigneur, n'est-ce pas vrai ? Eh oui, il y a des choses qui sont moins faciles, et puis il y a de grandes joies aussi, c'est vrai. Et ces joies, eh bien, elles nous viennent, c'est vrai, du Seigneur, de sa grâce, qu'il nous renouvelle. Nous comprenons pas tout, hein, dans la vie. Ça, c'est certain. Quelquefois, nous comprenons longtemps après. Et ça éprouve naturellement, eh bien, notre patience. Ça fortifie notre foi. Tant de choses semblables. Alors, d'abord en santé. Que Dieu vous donne une bonne santé. Partout autour de nous, on entend tout sauter, éternuer. Alors, jusque ça, quand ? Et puis, également la paix. Vous savez que nous vivons, et je ne suis pas le seul à le dire, dans un monde dangereux. Mais je pense que pour nous, chrétiens, dans l'Évangile, de l'Évangile, eh bien, nous avons toujours de bonnes raisons d'espérer, d'avoir de l'espoir. Et c'est quelquefois dans les grandes tragédies de la vie des hommes, de l'humanité, que Dieu se manifeste. Vous savez, quand tout va bien, quand tout tombe du ciel, enfin du ciel ou d'ailleurs, mais ben on a tendance à oublier le Seigneur. C'est vrai, il faut bien le reconnaître. Hein, les choses sont vraiment pas faciles, mais quelque part on en oublie l'essentiel. Alors c'est vrai, la paix. Et nous avons besoin de redoubler de prières, de la paix. L'épanouissement des églises, la multiplication des églises, c'est ça ce que nous voulons. Et l'apôtre Paul dira, je ne suis pas venu pour baptiser, mais je suis venu pour annoncer l'évangile. Alors nous sommes tous des prédicateurs, nous sommes tous des missionnaires, nous sommes tous des apôtres. Et que cela véritablement eh bien, nous fortifie et nous donne sa grâce. Et puis, pardon, bien d'autres choses. Voilà, je vous souhaite une bonne santé physique, morale, psychologique, spirituelle. J'arrête là. Ben, vous avez tout. Hein. Alors voilà, donc ce matin, eh bien, nous allons ouvrir une méditation qui est véritablement quelque chose de très important, me semble-t-il, parce que ce que j'aimerais partager avec vous renferme tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament. Alors, c'est tout un programme. Hein. Vous avez du temps jusqu'à la fin de l'année, là. Eh bien, on va passer, en effet, notre temps à méditer les grandes leçons de l'Ancien Testament remplacées par le Nouveau Testament. Et c'est ça ce qui est important. Nous ne sommes pas des Israélites, nous ne sommes pas des Juifs. Bien qu'il y ait un livre pour eux, un livre qui demeure, mais qui n'est pas refermé, parce que les choses ne sont pas finies. Et puis pour nous, l'Église, l'Église de Jésus-Christ, disciples de Jésus-Christ, eh bien, nous avons véritablement quelque chose qui nous a été donné, espoir du monde, c'est la grâce par la foi. Alors, on va s'expliquer. Je voudrais ouvrir donc un premier texte. Alors, pardonnez-moi si véritablement je suis toujours un petit peu perturbé par ma voix, mais là aussi ça n'en finit pas. Mais toujours est-il que vous allez comprendre. Alors, dans l'évangile de Jean, il y a un texte essentiel. Ce sera simplement un petit verset. Donc, évangile de Jean. Et c'est Jésus qui véritablement eh bien, est en ligne, en priorité. Il est dit ceci, l'Esprit nous dit ceci. Je ne vous ai pas dit Jean, vous l'avez entendu Jean, mais vous n'avez pas entendu le chapitre. Eh bien, vous auriez dû deviner parce que c'est le premier. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? C'est simple, hein? On commence toujours par les premières choses. Allez, c'est un petit clin d'œil que je vous fais. Donc, Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 16, et particulièrement 17. Et nous avons tous reçu sa plénitude. Retenez bien les mots. Et grâce sur grâce. Régime contraire à ce que nous allons voir dans l'Ancien Testament. Alors, car la loi, L-O-I, a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. À votre avis, quel texte je pourrais ouvrir maintenant qui résume ce que nous avons lu il y a un instant? À votre avis? Alors, on va le chercher naturellement, eh bien, dans l'Ancien Testament, Moïse, la loi, Jésus-Christ, la grâce et la vérité. Eh bien, je vais vous conduire dans les 10 commandements. Ça vous va? Parce que tout le monde les connaît, hein. Tout le monde a vu Bénur. Ça, c'est pas une référence absolue. Alors, je vais le lire un petit peu en diagonale, parce que vous le connaissez, vous savez les raisons qui sont, eh bien, données dans ce passage. Moïse, les 10 commandements. Il est dit au verset 3, et puis après je vais enchaîner dans des affirmations, mais peut-être, comme je l'ai dit, eh bien là, en diagonale. Dieu dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée et de représentation quelconque, qui sont dans le ciel, les cieux, la terre. Tu te prosterneras point devant tel. » Et tu ne les serviras point. Un peu plus loin, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu. Verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours pour faire ton ouvrage. Un peu plus loin, tu ne feras aucun ouvrage le jour du sabbat. Verset 12. Honore ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent, c'était une promesse, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages, entendez le mensonge. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, pour nous c'est quand même assez rare, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà, ça vous va? Oui, c'est le grand enthousiasme ce matin. Je le sens. Alors, les 10 commandements. J'ai donné déjà une étude, une première partie il y a 10 ans. Alors peut-être ceux qui ont la mémoire solide. Mais toujours est-il que j'avais besoin, finalement, eh bien, de donner la seconde partie qui me tenait à cœur d'apporter cette deuxième partie. Les 10 commandements, la raison et l'utilité de cette parole. Alors, je voudrais donner une comparaison, une approximation en tous les cas. Vous savez, dans la société des hommes, il y a des règles. Et en ce qui concerne l'utilité, c'est que nous sommes devant, dans la Bible elle-même, nous sommes devant une règle de jeu. Oui, parce que c'est gagner-perdre. On peut dire ça comme ça. C'est une règle de vie, comme il en existe d'autres. Si je vous dis le col si vide, ça finalement, eh bien, ça nous concerne dans notre société humaine. Il y a le code de la route, et attention, ça se resserre de plus en plus. Il y a des codes moraux, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des règles dans le sport. Paul le dira, mais si l'athlète a combattu selon les règles, etc., etc., je rappelle. Il y a des codes à la maison, hein, pour se tenir en famille, pour se tenir finalement, eh bien, dans, eh bien, tout simplement, l'affection et dans toutes sortes de choses. Il y a des codes à l'école. Il faut arriver à l'heure. C'est, en effet, bien sûr, toutes ces choses. Les lois sont faites pour protéger. Et quelquefois, ça peut nous impatienter, ça nous embarrasse. Mais elles sont faites pour procéder et non pour restreindre. Retenez bien le mot « restreindre ». C'est pas pour nous enquiquiner. C'est pas pour « Dieu n'a pas fait ces choses » pour véritablement eh bien, nous entraver. Les lois dans la société, elles ne sont pas faites pour le désordre, elles sont faites pour l'ordre et que tout le monde y trouve son compte, naturellement. Et nous pouvons nous imaginer quelques instants une société sans loi. Ben, si vous en voulez une petite, un petit exemple, eh bien vous regardez autour de vous, parce que là, on y va. Hein. Ouais. C'est étonnant, c'est époustouflant ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ouais. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, si vous avez un monsieur, un képi qui se met devant vous et qui vous fait un petit signe, bonjour, ben, arrêtez-vous quand même. Parce que ça peut coûter cher et ça va coûter de plus en plus cher. Mais c'est normal. C'est normal. Quand il n'y a pas, finalement, eh bien, de la part de celui qui est interpellé, véritablement une agressivité mortelle. Ça peut arriver, c'est ce que nous voyons, malheureusement. Oui, la loi n'a pas été donnée pour l'anarchie et elle n'a pas été donnée pour le désordre, mais exactement le contraire. Il y a de liberté. Et les politiques le disent, il n'y a de liberté que dans la mesure où il y a respect de l'ordre. Pour vivre heureux, pour vivre paisible, pour vivre tranquille. Et l'ordre établi. Et nous avons en effet à dire que lorsque eh bien, les choses sont posées, c'est véritablement une qualité de respect d'autrui pour le bien d'autrui. C'est pas seulement pour moi. Moi, si je veux aller en prison, ben, je fais des bêtises et puis je vais y aller, hein, ça c'est clair. Mais c'est par rapport à l'autre. L'autre victime, l'autre qui finalement, eh bien, lui ne demande qu'à vivre tranquille, qu'on ne vienne pas, là, lorsque vous êtes parti en vacances, piller la maison, incendier les maisons, brûler les voitures, voilà. Toutes sortes de choses. Le respect des autres. Et Dieu l'a donné dans cet état d'esprit. Alors nous allons passer très rapidement, en détail, les 10 commandements. Rapidement, hein. Quelques notions du décalogue, parce que les 10 commandements, ça veut dire aussi décalogue, 10 décalogues, les 10 principales, eh bien là, mesures que Dieu a données aux hommes. Vous savez que nous l'avons éprouvé, vous l'avez éprouvé vous-même, c'est le sentiment, voire l'injonction de devoir obtempérer. Obéir, si vous voulez, c'est le mot. Obligation de faire et, dans son contraire, de ne pas faire. Voilà. La liberté de faire et la liberté de ne pas faire. Le deuxième point des 10 commandements, c'est ce que Dieu veut, c'est-à-dire c'est sa volonté. C'est pas ma volonté. Sa volonté. Ce que Dieu veut, qui est ressenti comme quelque chose de négatif. À chaque fois que je me trouve devant un stop ou devant un feu rouge, eh ben, j'ai le choix. Je passe ou je passe pas. Je m'arrête ou j'écrase quelqu'un. Voilà. Hein? Donc, c'est le choix, en effet. C'est le sentiment, eh bien, là, que nous le ressentons lorsque nous sommes barrés et que nous le ressentons comme quelque chose de négatif. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas manger de ceci, tu ne dois pas penser cela, etc., etc., et ça se multiplie à l'infini. Et c'est perçu comme contraire à notre liberté de choix. Vous savez que dans le jardin d'Éden, Dieu a donné le choix. Voilà, il y a ceci, il y a cela, je te mets devant les fêtes, je te mets devant une proposition de bonheur, d'épanouissement, mais je te mets aussi devant les risques et les dangers. Et ça, on ressent finalement toutes ces commandements, on les sent comme, là, une entrave à ma liberté. Mais j'ai le droit de choisir. C'est bon, c'est très bien. Mais si c'est pas bon, moi je me sens frustré parce que j'ai envie de le faire, tout simplement. Le troisième point de cet aspect du décalogue, c'est un autre élément, c'est que la loi, je ne confonds pas avec la foi, c'est que la loi suscite en nous l'impression de crainte après la faute. Et oui, je me dis, alors il y a des gens qui sont sans conscience, sans scrupules, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est horrible, mais j'en ai rien à faire. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a-t-il encore une conscience humaine dans le cœur de ces gens? Mais toujours est-il, c'est l'impression de crainte que l'on appelle la conscience. Elle dit oui, elle dit non. Elle dit oui, elle dit c'est bien, ou elle dit c'est mal. Et c'est toujours à ce moment-là, je suis frappé, lorsque j'ai fait quelque chose de mal, eh bien je suis frappé par le sentiment que c'est pas bien, c'est mauvais. Le sentiment du mal, et qui va m'entraîner à une culpabilité si j'ai encore un peu de conscience. Ouais, la culpabilité. Mes frères et sœurs, je voudrais ouvrir une parenthèse. Vous appartenez à Jésus-Christ. Vous avez confessé le nom de Jésus-Christ. Vous croyez à sa rédemption à la croix. Mais pourquoi être quelquefois culpabilité à mort? Si vous avez fait une faute, d'accord, mais il y a la solution. Et on va la dire d'ici quelque temps. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a encore des chrétiens qui vivent sous le joug, comme s'ils étaient en Égypte, comme s'ils avaient des maîtres, comme s'ils avaient encore des flagellations parce que ceci, cela. Et ça, je crois que Dieu ne peut rien faire finalement avec vous. Il voudrait que vous soyez heureux, mais vous êtes malheureux à cause de la culpabilité. C'est fini la culpabilité, mes frères et sœurs, à moins que vous ayez commis quelque chose. Mais alors, il y a toujours la possibilité de la repentance qui blanchit tout, qui vous affranchit de votre faute. Et ça recommence. Mais si vous vivez continuellement avec une culpabilité, alors à ce moment-là, sans pouvoir vous donner à votre maître, temporairement, mais vous donner aux puissances mauvaises, finalement, l'occasion de vous écraser, de vous neutraliser, de vous empêcher d'être joyeux, heureux, d'avoir le bonheur, parce que c'est votre conscience qui a besoin d'être guérie. Vous avez besoin d'être guérie, mes frères et sœurs. Et ça commence par là. Soyons heureux parce que le Seigneur nous a donné le bonheur. Et ça, il faut que ça rentre. Parce que on traîne dans nos églises évangéliques, pourtant c'est quand même la plénitude. Je ne dis pas que c'est parfait, mais la plénitude d'une libération dans la doctrine que nous connaissons. Et nous avons encore des frères et des sœurs qui marchent comme la femme courbée depuis 18 ans, qui était tenue par Satan. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? La foi suscite en nous l'impression de crainte, le sentiment du mal, la culpabilité, la servilité. Nous sommes des hommes libres, nous sommes des femmes libres. Et nous devons finalement comprendre que le Seigneur nous a appelés à nous tourner vers lui pour avoir une pleine liberté. On sait aussi que les problèmes ne viennent pas de la loi elle-même. Parce que qu'est-ce que nous dit l'Écriture? La voie, elle est juste, elle est sainte. Alors pourquoi nous sommes culpabilisés par une loi qui est juste et sainte? C'est parce qu'elle est loi, elle est juste et sainte, et moi, je suis un pécheur. C'est pas parce que le jour où on se convertit que tout est parfait après. Hein. La vie, c'est pas un beau rêve bleu, tout ce que vous voudrez. Hein. Parce qu'après, il y a des combats, il y a des luttes. Et nous luttons contre le mal, bien sûr. Hein. Alors, nous voyons que Dieu ne l'a pas créée pour qu'elle soit mauvaise, la loi. Au contraire. Hein. Alors, pourquoi cela? Pourquoi Dieu a-t-il créé une loi qui nous bloque, qui nous paralyse et qu'il l'a donné au monde, qu'il a donné à un peuple d'Israël, que ce peuple d'Israël l'a répandu dans le monde entier, mais à un moment donné, ça c'était l'Ancien Testament, et pourquoi a-t-il donné un Nouveau Testament? Si les choses avaient été reçues de nous, mais d'une manière parfaite. Non, c'est parce qu'il y a besoin d'autre chose. Il y a besoin d'autre chose. Parce que, figurez-vous mes frères et sœurs, j'ai quelque chose en moi. Alors vous ne le répéterez pas. Mais j'ai quelque chose en moi, mais de toute façon, vous allez comprendre que vous l'avez en vous aussi. Hein? J'ai quelque chose en moi qui se rebelle, qui contredit ce que Dieu a voulu de bon et de vrai. Alors, il y a un combat. On n'est pas tout seul. Il y a une dimension humaine, charnelle, il y a une dimension divine, et il y a une dimension diabolique. On n'est pas tout seul. Dans le ciel, le diable n'existera plus. Le mal n'existera plus. Et les conséquences telles que la mort, la souffrance, etc., ça n'existera plus. Mais pour l'instant, nous sommes dans, véritablement sur un terrain, un champ de bataille. Ouais. Dieu a voulu le bon, le vrai, le juste pour moi, personnellement. C'est pas une affaire, c'est une affaire globale, c'est vrai, mais c'est une affaire personnelle. Parce que c'est le péché qui réagisse. Et c'est l'apôtre Paul qui dira ceci, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi, comme véritablement, et bien là, comme une pieuvre, comme une sangsue. Je peux pas la décoller, parce que c'est ça. Donc ça prépare déjà, finalement, et bien, une révolution, une transformation qui doit s'opérer dans la vie de tous les chrétiens qui croient en Jésus-Christ et qui sont nés de nouveau. Donc Dieu a donné un cadre excellent, me permettant de vivre une vie meilleure. Parce que le mal m'habite. Et il le sait, le Seigneur, que nous sommes parfois malheureux avec nous-mêmes, que nous avons véritablement des tourments moraux, des tentations, des convoitises, que quelquefois nous perdons la tête, que quelquefois nous sommes attachés à des addictions de toute nature, quelles qu'elles soient. Oui. Parce que le mal m'habite. La loi la plus logique, parce que l'homme est intelligent, la loi logique me le dit. Parce que la tentation, eh bien là, me pousse à dire, comme Paul, je l'ai cité tout à l'heure, si je veux faire le bien, eh bien je fais le mal que je ne veux pas. Et là, ça complique encore les choses, hein. Je fais le mal que je ne veux pas. La désobéissance, l'infraction à la loi de Dieu est devenue le fléau numéro un de la société de tous les temps, des sociétés dans tous les temps. On le voit aujourd'hui. Avec quelle désinvolture, avec quelle facilité, quelle provocation, quel défi. Nous vivons dans un monde où aujourd'hui, eh bien, nous apercevons que c'est véritablement un fléau, que même les autorités, avec leurs moyens, leur science, leur connaissance, hein, leur psychologie, leur philosophie et tout ça, n'arrivent même pas à toucher du doigt, parce que c'est comme quelque part, là, lorsqu'on opère une maladie très grave, et parce que nous avons opéré, parce que les choses n'ont peut-être pas été faites, et puis la faiblesse finalement du malade, hein, eh bien, ça fait des métastases. Et c'est, nous sommes dans une société de métastases par rapport au mal et au péché, hein. Vous touchez, paf, ça éclate. Et ça éclate de tous les côtés. Les révoltes sociales, les refus de l'autorité, je vous en ai parlé tout à l'heure, les rébellions aux parents, ça c'est les jeunes, la contestation, les revendications, etc., etc. Si l'on décompose les 10 commandements, eh bien nous apercevons en effet d'une chose. Nous apercevons, parce que nous allons aller dans le détail, on observe que les 4 premiers commandements intéressent les règles qui gouvernent la relation Dieu-homme. Vous reprendrez, vous verrez, au chapitre 20. C'est la relation Dieu-homme et homme-Dieu. Et les 6 dernières sont de 2 fois plus nombreuses, enfin 2 éléments supplémentaires. Ce sont les hommes entre eux. Tu ne combattras pas, tu ne tueras pas, tu ne. Voilà, exact, etc., etc. Et je pense que c'est quelque chose, donc, en résumé, on peut bien comprendre les choses. Il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce qu'il y a dans notre monde aujourd'hui, sur toutes les surfaces de la terre et dans toutes les religions, dans toutes les conceptions religieuses de piété et tout ce que vous voulez? C'est une mosaïque de religions et de toutes sortes de doctrines, de toutes sortes de... Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Toi seul. Dieu seul, plutôt. Dieu seul. Tu ne te feras pas d'image. Tous les monuments, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit en effet d'une façon ou d'une autre dans le monde, eh bien là, chrétien, que ce soit orthodoxe, et ils ont pas mal, catholique, toutes sortes de choses, eh bien il y a des idoles. Voilà. On a créé des idoles. C'est le veau d'or du temps de Moïse. Voici, Israël, ton Dieu marche devant toi. Et ça, c'est véritablement quelque chose que Dieu ne supporte pas. Ça, c'est clair. Tu n'adoreras pas les idoles, tu ne prendras pas mon nom en vain. Je ne vais pas vous choquer, hein. Nom de Dieu. Excusez-moi. Ça, c'est un électro... pour cardiogramme. Oui, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, moi, j'ai jamais entendu nom du diable. Et on se sert du nom de Dieu pour proférer des injures, proférer de la révolte contre Dieu, comme si c'était Dieu qui était le responsable de tout. Mon Dieu, tu l'as dit à la croix, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, et ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu ne prendras pas mon nom en vain. Souviens-toi du jour de sabbat. Alors ça, c'était exclusivement pour les Juifs, l'Ancien Testament, je ne veux pas en parler trop, parce que Dieu savait que les hommes s'évertueraient à faire le contraire. Ouais, tu vas te reposer. Avoir d'autres dieux, se faire des idoles, jurer, injurier en se servant du nom divin, s'épuiser à ses passions, tant au niveau du corps que nous mettrons à rude épreuve, à l'âme, la pensée, comprenez, la conscience, à l'esprit. Et Dieu dit, tu vas te reposer. Moi, j'ai travaillé pendant 7 jours, maintenant tu vas te reposer. Pendant 6 jours, excusez-moi. Je ne sais plus où j'en suis maintenant avec Noël et puis le premier de l'an, etc. Je suis perdu là en ce moment. Et puis ma femme non plus, alors on ne s'entend plus. Le sabbat, le repos. Mes frères et sœurs, Dieu vous a donné un corps, il faut savoir se reposer. Et pas pousser les choses et machines jusqu'au moment où vous allez vous trouver dans une situation où on vous dira, mais vous avez déjà consommé toute votre vie. La chandelle parlait debout. Expression. La loi a été promulguée pour que là, le mal, le péché, tout comme la médecine humaine, contribue au maintien, à la conservation d'une bonne santé. Si vous poussez les choses, mais vous allez être malade avant le temps. On l'a tous expérimenté. Je suis épuisé. Alors on dit, bah, tu te reposes, tu te fais du bien. Quelquefois, la meilleure, finalement, le meilleur des médicaments, c'est quelquefois de savoir prendre des vacances, de savoir se mettre au lit, de dormir, et pas dormir pendant 3 ou 4 heures, parce que ça ne sera pas suffisant. À un moment donné, ça va vous rattraper quand vous allez avoir, eh bien, un certain âge. Merci, docteur. Alors, médecine humaine qui contribue au maintien, à la conservation d'une bonne santé. Eh bien, c'est pareil. Notre vie spirituelle, notre vie morale, c'est la même chose. C'est sûrement rébarbatif, il faut en convenir, à celui qui est malade de faire un régime, de garder finalement eh bien là une hygiène de vie, de prendre un traitement, mais c'est pourtant vital. Moi, je ne suis pas contre les médecins, je ne suis pas contre les médicaments. On l'entend dans nos milieux, hein, quelquefois. Ah là là, c'est pas bon. Mais vous savez, moi je pourrais vous dire avec expérience, que si je n'étais pas passé par la voie, finalement, eh bien, de dire, Seigneur, moi, je me mets sous le protocole de ton Saint-Esprit, mais tu me pousses et tu me conduis à voir les médecins, ben, je serais pas là aujourd'hui. Hein. Je me souviens des opérations et même des commentaires de mon chirurgien ou de mon cancérologue qui m'a dit, ben, écoutez, il est temps. Mes frères et sœurs, soyez souples entre les mains de Dieu. Les hommes soignent, mais Dieu guérit. Amen. Alors, il faut que ça rentre, ça aussi. Hein. Parce qu'on a perdu et on perd, finalement, les êtres chers. Dieu affirme que l'homme est pécheur, qu'il s'ignore, et il refuse de le savoir, de l'entendre. Aussi, la loi divine oblige à prévenir d'un danger sous une forme négative. Alors, j'assiste sur l'adjectif négatif. Pourquoi Dieu nous parle en négatif? C'est pas pour nous faire trembler, c'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour nous dire attention, il y a un danger. Comme dans le code de la route, quand il y a un stop, quand il y a un feu, quand il y a une déviation, quand il y a ceci et cela, c'est que les choses sont dites pour que nous ne pratiquions pas, que nous n'allions pas dans ce sens. C'est négatif. Arrête. Vous savez, s'il n'y avait pas eu le péché, il n'y aurait pas de stop, il n'y aurait pas de... Toutes ces choses qui sont là pour nous arrêter. Mais Dieu le fait par amour. Et non pas par en disant, ben voilà, tu vas en prendre plein la tête, tu vas comprendre. Non. Imaginons que Dieu ait parlé autrement. Il est dit le contraire. Il est décrété le contraire. Il aurait pu dire, je suis le seul et unique Dieu. Alors, tu touches pas aux idoles, tu touches pas à toutes tes bricoles là, qui te font tourner la tête. Dieu aurait pu dire, vous avez besoin de moi. Oui, parce que je suis le seul Dieu et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est sûr. Rentrez, il aurait pu dire, ben, rentrez en relation avec moi, direct. Ça, c'est la prière. Pas besoin de vous représenter ma divine personne par des formes grossières. Pensez aux statues, dans tous les temples, dans tous les lieux, les églises, les chapelles, etc. Des statues d'or et d'argent, veau d'or, comme si finalement la valeur d'une statue, qu'elle soit faite en plate ou qu'elle soit faite, eh bien là, en platine, comme s'il y avait quelque chose. C'est la mort, ça. Il n'y a rien derrière. C'est l'œuvre des hommes. Les hommes se font des dieux. Et ils viennent le prier, ils viennent les prier. Je vous ai donné mon nom, il est saint, ça on le sait. Respectez-le au moins. Voilà. Je suis le Créateur, travaillez 6 jours. Le 7e, vous reposerez en vous souvenant de moi. Oui, mais on se souvient du Seigneur tous les jours, nous. Non? Ça vous arrive de l'oublier? Hein? Oui? Bah, vous ne me répondez plus. Bon, on y pense tous les jours, on y pense la nuit. Mais c'est pas pour ça que c'est un fardeau, n'y pensez. Au contraire! Au contraire! Dieu aurait pu formuler dans le sens positif, c'est ce que je viens de dire. Mais l'homme l'aurait-il écouté davantage? Parce que c'est ça la question. Parce qu'on peut donner des conseils, on peut donner des choses positives aux gens. Les gouvernements peuvent donner des choses, mais est-ce que vous croyez qu'ils les écoutent? Il y a des gens qui vont les écouter, ça c'est sûr. Mais il y a des gens qui vont dire, ouais, moi je peux passer à travers, je suis plus fort. Je suis plus fort. Eh bien non, moi je dis que l'homme, que Dieu lui présente des choses positives ou négatives, de toute façon, il n'en veut pas. Parce qu'il y a toujours la tentation de désobéir, parce qu'il y a ce quelque chose en moi que j'appelle le péché. Vous êtes d'accord si je vous dis que vous êtes pécheur? Qui n'est pas pécheur au milieu de nous? Levez la main. Oh là 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 là! C'est la foule! Eh oui, c'est la nature humaine. Et je vous dis, si Dieu a envoyé Jésus-Christ comme sauveur, c'est que les hommes ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Il fallait véritablement un rédempteur, celui qui prenne la place, finalement, du pécheur. Nous allons poursuivre. Tu ne tueras pas. Quelqu'un a tué, là, parmi nous? Ah oui. Moi, quand je vais à la pêche, je tue des poissons. Il y a belle lurette que j'y vais plus. Je me suis repenti. Tu ne tueras point, la vie humaine est sacrée, respectez-la. Tu ne commettras pas d'adultère, car c'est dans le mariage, écoutez bien, car c'est dans le mariage, uniquement, qu'est la relation la plus profonde. Le mariage seul est la réponse satisfaisante au problème de la solitude. Une, solitude. Elle cimente la fidélité d'eux et elle épanouit l'amour. Est-ce que vous me dites amen à moi? Vous le dites au Seigneur, hein? On est d'accord. Oui, parce que c'est ça le mariage, le but du mariage. Et derrière, c'est parce que Dieu veut que l'homme et la femme soient heureux. Malheureusement, ils ont croqué la pomme à tous les deux. Si c'était une pomme, c'était peut-être une banane. Enfin, il y avait une peau en tous les cas. Eh oui, tu ne porteras pas de faux témoignage. Le mensonge, c'est une gourmandise, c'est une friandise. Alors, on a eu beaucoup de gourmandises, ces gens-là. Hein. Vous résistez au chocolat? Qui c'est qui a dit non? Allez, on avoue. Eh oui. Et moi, je pense que tout cela, eh bien, il y a un sens. Le mensonge. Car je suis le Dieu de la vérité. Le mensonge, parce que ça, c'est quand même des leçons. Le mensonge détruit la confiance afin que vous restiez digne de confiance vis-à-vis des autres. Si on utilise le mensonge à tout va, ben le jour on dira au feu, personne n'appellera les pompiers. Hein. Et voilà, c'est un discrédit quelque part. Hein. Abstenez-vous de mentir. Tu ne convoiteras pas la maison de la femme, de ton voisin, etc., etc. Moi, j'aime bien quand il est question de l'âne. C'est quand même un autre temps. Moi, je convoite pas l'âne et le mulet de mon voisin qui habite dans le même immeuble que moi. Alors, tu ne convoiteras pas. Ça, c'est quelque chose. Je vous ai tout donné, dit Dieu. En partage, sachez que les personnes ont plus de valeur que les choses. Et nous sommes dans une société aujourd'hui où les choses ont plus de valeur que les personnes. Regardez ces messieurs-là, qui, du côté de l'Ukraine et de la Russie, et puis là, on le voit dans tout ce qui se passe sur les points du coin. Mais les choses militaires, les tanks, les avions, les drones et tout ce que vous voulez, ça a plus d'importance, finalement, eh bien que la vie de ces pauvres gens, pères de famille, qui sont là derrière les frontières de l'Ukraine, massacrés par des fous. Oh là là, il va m'arriver des histoires. Il va falloir que je m'achète une série de trônes pour me défendre. Hein. Non, mais c'est vrai. Écoutez, je relis tout ça. Hein. Ouais. Nous avons plus à donner de valeur des choses. Alors, aimez vos semblables et servez-les, servez les choses, sans vous servir des hommes pour votre amour. Eh bien, finalement, des choses que vous utilisez. On tue les hommes pour des choses. Vous savez, la Bible nous dit que dans les derniers temps, les temps de la fin, il ne restera rien de rien de la terre. Alors, les musées, et puis tout ce qui va, ça va disparaître. Parce que dans le ciel, ça sera vraiment un temple universel. Et de valeur. Parce que quand on voit les minéraux qui vont être utilisés pour la grande Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, ça va être quelque chose. Je me perds pas dans mes affaires, là, non? Ça va? Vous me suivez? Vous n'osez pas me le dire. Hein. Bon, allez, je continue encore un peu. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Oui, l'amour des choses et se servir des hommes, tout simplement, eh bien là, pour satisfaire l'amour des choses. Dieu n'a pas formulé de cette façon. Et alors pourquoi il n'a pas formulé de cette manière? Si nous pensons que la loi nous prive de quelque chose de bon, il y a souvent certaines choses qui ne sont pas bonnes. Et nous avons raison de nous en détourner. Alors Dieu fait grand cas de notre liberté de choisir. C'est pour ça qu'il te demande de choisir. Choisis le bien, choisis le mal. Choisis la vie, choisis la mort. Voilà, on ne va pas choisir la deuxième naturellement. Hein. Il parle au négatif, ne pas. Car c'est moins limitatif, excusez-moi, mais quand le ne pas, la négation, c'est moins limitatif que finalement, eh bien là, un commandement positif. Parce que là, il va falloir choisir, en bien, en mal. En adoptant le négatif, ne pas, ou tu ne feras pas, Dieu sanctionne le péché sans nous laisser dans l'illusion que nous serions suffisamment sages et forts. Et c'est bien l'orgueil de l'homme. On y arrivera sans toi, Dieu. Hein. On est intelligent, on est sage, on a des capacités. On vient d'inventer l'intelligence artificielle. Attention, il y a peut-être quelque chose à redire. Pour nous conduire, faisant naturellement ce qui est bien, juste et bon. Et l'homme n'est pas capable de faire ce qui est naturellement, ce qui est bien, ce qui est juste et bon. C'est pour ça qu'il a dit les choses de la manière ne pas, sans s'interdire. Il n'y a pas un seul juste, nous dit Jésus, ou plutôt la Bible. Pas même un seul. Personne n'est un saint. Ouais. Vous n'avez pas d'auréole, là. Hein. Je vois pas. Ça, c'est les hommes qui ont créé l'auréole. Oui. Alors, personne n'est saint. Toutes les religions, j'en arrive peut-être à quelque chose qui est un petit peu à craindre, toutes les religions se sont engouffrées dans une fausse conception. Nouveau Testament, Ancien Testament, ils ont mélangé les choses et ils essaient de faire la cuisine avec tout ça. Les religions, il peut y avoir des gens religieux, il peut y avoir des gens sincères, il peut y avoir des gens, mais la sincérité dans la vérité, quelquefois, eh bien, faut savoir quelle est la bonne vérité. Et la parole de Dieu nous donne la vérité. Ta parole est la vérité. Hein. Alors, les religions se sont engouffrées en expliquant savamment, c'est ce qu'on appelle la haute théologie, et religion, tout simplement, à travers des kyrielles de demi-lois, un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. C'est ce qu'on appelle finalement les religions pseudo-humaines. Et elles ont davantage éloigné l'homme, la créature, de Dieu que de le rapprocher. Que de révolte contre Dieu aujourd'hui, hein, même dans les religions. Eh oui, à cause finalement du péché des hommes, à cause des scandales, à cause des choses abominables que l'on voit à travers la religion. Hein. Je ne rentrerai pas dans les détails. En laissant penser que c'est une illusion de la conscience. Mais vous avez peut-être quelques remords, quelques regrets. Mais il n'y a rien à voir, le regret et le remords, ça n'a rien à voir avec la repentance. C'est ce que Jésus est venu enseigner d'ailleurs. Parce que l'âme humaine erre à la recherche de la paix et du vrai pardon. Et le vrai pardon, c'est Jésus. Et ce n'est pas une religion. Toutes les religions ont vanté la loi faite du ne pas. Interdiction ici, interdiction, etc. Et les gens n'en veulent pas, hein, ça, hein, c'est fini, hein, c'est terminé, hop, ils balancent tout ça. Hein. Interdictions qui sont considérées comme mortelles, qui terrorisent par la punition. Si tu fais ça, tu seras puni. L'Église va te punir. Le curé va te punir. Le pasteur va te punir, parce que ça, quelquefois, on n'y voit pas trop clair hein, dans tout ça. Hein. Et l'Évangile remplace la loi par la grâce. Moi, j'aime bien ces mots hein, associés. L'Évangile remplace la loi par la grâce, le devoir par l'obéissance dans l'amour. Si j'obéis, c'est parce que j'aime le Seigneur, et non pas parce que je tremble devant lui, tout simplement. L'Évangile remplace le mérite par la foi. Fais confiance. Ce n'est pas tes mérites qui vont te donner le salut, mais c'est ta foi qui va te sauver. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, nous dit Paul. Par le moyen, finalement, de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Vous n'y êtes pour personne, pour rien en tous les cas, on peut le dire. Vous êtes séparés de Christ. Si vous cherchez à être purifié par la loi, vous êtes déchu, c'est Paul qui dit aux Juifs, vous êtes déchu de la grâce, dans Galates. La puissance du péché, c'est la loi. Ça tombe comme un couperet de guillotine dans Jacques. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, a péché contre tous. Alors à quoi ça sert? La grâce, elle est immense, elle est infinie. Mais nous voyons que la loi, elle est là en permanence et à travers tous les temps. On se la passe dès la naissance, la loi. Ouais. Parce qu'on est héritier finalement et bien de la corruption. Dans le sermon sur la montagne, et je vais finir, Jésus a fait ressortir la nécessité d'une nouvelle loi que l'on va appeler maintenant la foi. Le Nouveau Testament va remplacer l'Ancien Testament, tout simplement, et non que ce soit des apparences. C'est ce que, finalement, Jésus a dénoncé chez les pharisiens. Oh, vous faites tout à l'extérieur, hein, naturellement. Mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes, finalement, plus maudits que les pharisiens, pas les pharisiens, mais les publicains et les gens de mauvaise vie. C'est ce qui va sortir, hein, c'est Jésus. Hein. Jésus ne demande pas, dans le Nouveau Testament, des apparences, il demande des actes de cœur, du cœur. Jésus a fait passer la loi de l'interdiction à l'amour en la spiritualisant. Ça, retenez, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, la loi, quand Jésus est venu, il l'a pris, il l'a servi même dans ses, je veux dire, hein, ses paraboles, etc., etc., mais il l'a spiritualisé. Il n'en a pas fait une règle mortelle. Non, il l'a spiritualisé. Et c'est ce que l'on retrouve dans un travail qui n'est pas fini, dans un travail qui a été spolié, un travail religieux qui, quelque part, n'a pas abouti, finalement, n'a pas eu d'aboutissement à travers les dogmes, à travers les dogmes religieux, à travers la dévotion et à travers toutes sortes de choses. C'est ce qu'il est venu dénoncer. Hein. Avec l'Évangile est venu le temps des commandements positifs. Ce n'est pas le punition. On n'obéit plus parce qu'il faut obéir, mais on obéit par amour pour Dieu, et on obéit parce que c'est quelque chose qui devient naturel pour nous. Ouais. La loi, elle n'est pas naturelle. Elle est obligatoire. Alors, l'amour rend capable de faire ce que Dieu demande, et nous pouvons maintenant l'accomplir paisiblement, mes frères et sœurs. N'ayez pas peur. Dieu bénit ses enfants, ceux qui lui font confiance, qui s'appuient sur lui. Et il nous demande que nous l'accomplissions paisiblement, avec plaisir et dans la joie, et surtout, ne pas oublier l'amour pour lequel nous le faisons. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est une chose de ne pas voler. Voler, c'est... Oui, comprenez les gestes, hein. Ou de ne pas se venger, mais bien autre chose d'être capable d'aimer son prochain et de le respecter. Le vol, c'est un irrespect de mon prochain. Me venger, c'est un irrespect de mon frère et de ma sœur quand ça arrive parmi nous. Lui pardonnant autant que je m'intéresse à moi-même et que j'aimerais être pardonné. On est souvent indulgent avec nous et impitoyable avec les autres. Le verbe aimer n'apparaît pas dans le décalogue. Dans d'autres textes de l'Ancien Testament, mais pas dans le décalogue. Car la seule chose qui ne peut être commandée, c'est le bon vouloir du cœur. Il y a ce passage qui me poursuit. Tu as créé en moi le vouloir, la volonté, et le faire selon ton bon plaisir. Mes frères et sœurs, s'il y a une prière que vous pouvez faire monter, donne-moi de faire ton bon plaisir. Moi, je ne veux pas aller chercher ton bon plaisir. Je le connais, peut-être, mais j'en suis pas capable. Mais une chose qui est certaine, tu vas me recouvrir de ton bon plaisir et je veux faire ce qui te fait plaisir. Tout simplement. Aimer ne se commande pas. C'est un acte volontaire. Crée en moi cette volonté, tout simplement. Vouloir vraiment, sincèrement, réellement, c'est une chose. Ainsi Dieu offre et Dieu nous montre le chemin pour y parvenir. Et le chemin pour y parvenir, on revient à l'essentiel de l'Évangile, c'est se reconnaître pécheur, c'est se reconnaître perdu, c'est d'être incapable de faire aucun bien, quoi qu'il en soit, c'est de se sentir imparfait complètement, de se sentir perdu, et de passer par la repentance, la conversion, et changer d'avis, et changer de vie. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et ce n'est pas l'Ancien Testament qui va nous y conduire. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que les Juifs, ils ont 2000 ans de retard maintenant sur l'Église. Ils attendent encore le Messie. Hein. Et nous, il est venu depuis, finalement, 2000 ans. La loi, Ancien Testament, la foi, le Nouveau Testament. Si vous demeurez dans ma parole, nous dit Jésus, vous êtes vraiment mes disciples, mais il faut demeurer dans sa parole. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et vous connaîtrez naturellement eh bien, la liberté. Jean, chapitre 8, la vérité vous rendra libre. La vraie liberté pour chacun d'entre nous, à travers cette parole, ce n'est pas uniquement l'Ancien Testament et de vivre en légaliste, mais c'est le Nouveau Testament de vivre tout simplement en chrétien. C'est pour la liberté, nous dit Paul, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, il a donné sa vie. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous le dis que si vous faites circoncire, ça c'est les façons de faire pour les Juifs, Christ ne vous sert de rien. Et je proteste encore cette fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Et il ajoute cette parole qui est terrible, vous êtes séparés de Christ si vous tous vous cherchez la justification dans la loi. La justification dans la foi, mes frères, mais pas dans la loi. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Merci parce que nous nous sommes si souvent posé la question, pourquoi l'Ancien Testament et pourquoi le Nouveau Testament ? C'est que l'Ancien Testament est maintenant obsolète. Oui, c'est vrai. Sinon, pour les légalistes, les pharisiens. Et il a fallu que véritablement, eh bien, tu donnes un autre testament, qui est le testament de la perfection, le testament du salut complet. Et nous te remercions parce que lorsque tu as donné le dernier souffle sur la croix du calvaire, tu nous dis à tous les hommes, tous les chrétiens d'aujourd'hui, même évangéliques, tout est accompli. Alors nous n'avons plus rien à faire que de croire et de recevoir ta grâce. Merci Seigneur, bénis ton peuple. Amen.